n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, mais quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Clic, clac, pouf, c'est maintenant Caméra Subjective, le magazine toujours bien pressé de vous parler de cinéma et qui se démène pour être à l'heure à ce rendez-vous important. Nous voici déjà fin juin et c'est donc une fin de saison radiophonique. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison ou de la vie entière. Et oui, on vous laissera sur un suspense insoutenable puisque nous ne savons pas encore si nous reprendrons l'antenne à la rentrée. Mais avant la période du sable, des cartes postales et des coups de soleil, on a encore des choses à vous dire. Nous, c'est l'équipe habituelle avec Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir Anne-Li, bonsoir Véronique et bonsoir à toutes et tous.
Et voilà, Véronique, bonsoir Véronique.
Bien, bonsoir, bonsoir à tous.
Véronique, tu nous proposes ce soir une chronique pour percer un mystère, un secret. Nous allons comprendre pour quelles raisons on s'assoit ici ou là dans une salle de cinéma et ce sera en fin d'émission. De mon côté, j'ai boutiqué un agenda cinéma en me fiant à des bandes annonces. Rien de très original, mais j'insiste car c'est aussi au cœur de l'entretien du jour. La bande-annonce, c'est souvent notre premier contact avec un film, le moment où on se dit « ah ouais, j'irais bien voir ça » ou alors « très très peu pour moi ». C'est un élément clé de la diffusion et de la promotion et parfois, après avoir découvert le film en salle, on se dit « ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu en bande-annonce, on m'a complètement menti ». Ou alors, et je vous le souhaite, on se dit qu'on avait vu juste. Il y a donc tout un monde derrière ce court objet audiovisuel et nous avons invité Renaud Lefèvre, qui en fabrique, lui, des bandes-annonces.
Bonsoir Renaud Lefèvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors Renaud, vous êtes diplômé de l'ESRA, qui est une école de cinéma installée à Paris, et vous avez créé il y a quelques années La Cinéphile, qui conçoit des contenus pour le cinéma. D'abord, vous avez commencé avec des making-of, et puis dorénavant, vous êtes monteur de bandes-annonces de films. Alors vous êtes aujourd'hui installé à Nantes et on vous imagine régulièrement dans un TGV pour vous rendre à Paris, pour vous rencontrer vos clients ou assister à des avant-premières de films peut-être. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de clôturer ainsi, j'ai presque envie de dire en bouquet final, cette saison et de nous donner surtout l'occasion de pénétrer dans les coulisses de votre activité qui effectivement est un petit peu mystérieuse pour nous. Alors, je préviens les auditeurs, on aura l'occasion de revenir sur le parcours d'une bande-annonce en s'appuyant sur une de celles que vous avez réalisées récemment. Mais avant ça, j'aimerais commencer par une question assez simple. À quoi sert une bande-annonce?
Alors, une bande-annonce, la première idée, c'est quand même de faire monter le désir. Faire monter le désir sur un film, suggérer sans trop dévoiler. Et je pense que ce que vous avez dit en introduction, et c'est assez vrai, c'est l'intérêt, l'idée, c'est que le spectateur puisse se dire « ouais, j'ai très envie de voir ce film ». En fait, si on parle un petit peu de je pense que pour expliquer un petit peu pourquoi on fait des bandes annonces, peut-être expliquer un peu comment fonctionne l'industrie du cinéma. En fait, il y a trois grands acteurs. Il y a donc les producteurs donc, qui produisent le film, qui vont chercher de l'argent et qui vont avec le réalisateur ou la réalisatrice écrire un film et permettre que le film existe. Ensuite, il y a le distributeur, donc c'est les gens avec qui je travaille, qui vont savoir comment vendre le film, comment le proposer. Et puis il y a les exploitants qui, eux, le diffusent en salle. Et donc, la bande-annonce, en fait, ça sert un petit peu comme si... il y avait donc un producteur d'œufs. Le distributeur doit, lui, il ne sait pas comment on fait des œufs, comment on les produit, mais il sait les distribuer. Donc, il sait, sur un plan marketing, vendre au mieux cet œuf. Alors,
Alors Renaud,
là,
en fait,
oui.
Vous avez parlé au début d'un mot que je trouve très chouette pour parler de bande-annonce, vous avez parlé de désir, et il me semble qu'avec cette idée-là, en fait, on a vraiment la question de comment faire dans une bande-annonce pour à la fois résumer un film et puis pas trop en dévoiler, en fait. Comment est-ce qu'on fait ce... Quels sont les choix qu'on peut faire? Quels sont les partis pris possibles pour lesquels on peut opter quand on monte une bande-annonce?
Alors c'est un peu l'enjeu. Souvent d'ailleurs, quand je discute avec des gens, la première chose qu'ils me disent, c'est on aime les bandes annonces, mais la deuxième chose, c'est on en dit trop, vous dévoilez trop de choses. Pour en avoir discuté avec des distributeurs, beaucoup disent en fait, il faut dire beaucoup parce que il faut que chacun puisse dans cette bande annonce retrouver des choses qui lui plairont au cinéma. Mais l'idée, c'est quand même de pas dévoiler quand même.
De pas spoiler quoi.
Du film, à spoiler, voilà. Bah, alors ça, on fait attention. Mais après, c'est vraiment une discussion avec le distributeur et de ce qu'il faut dire et pas dire.
Alors justement,
tout le monde ne sont pas frileux, mais voilà, on essaie de pas tout raconter.
Et justement, en fait, ce que je trouve aussi intéressant dans votre réponse, c'est qu'on sent que dès le départ, il y a aussi la question du public du film. Et est-ce que du coup, dans quelle mesure ça peut impacter le montage d'une bande-annonce? Est-ce qu'il y a des codes, par exemple, qui sont liés à certains publics ou à certains genres du cinéma? Je ne sais pas, la comédie, le fantastique, le suspense. Est-ce que vous voyez des différences quand vous montez une bande-annonce?
Oui, il y a vraiment des codes spécifiques. Par exemple, donc, je fais juste une petite parenthèse. En fait, quand on vend un film, il y a deux choses sur lesquelles repose le parcours d'un film. C'est l'affiche et la bande-annonce. L'affiche, par exemple, c'est très. Il y a des standards marketing, des codes très importants. Pour une comédie, c'est pas du tout la même affiche que pour un drame ou pour un thriller. Et ben, c'est exactement pareil pour la bande-annonce. Il y a des codes. Et donc, peut-être qu'on en parlera après quand on parlera de.
Alors, par rapport, à comment la bande-annonce s'inscrit dans la promotion d'un film, effectivement, je pense qu'on peut y revenir un petit peu plus tard. Là, je sais que vous m'aviez dit que vous aviez travaillé sur le film Les Misérables de Lajli. Et en fait, vous expliquiez que finalement, pour un même film, en fonction du public auquel qu'on a envie d'attirer, on ne va pas forcément proposer la même bande-annonce ou les mêmes teasers, si on parle de quelque chose de plus court.
Voilà, exactement. Dans une bande-annonce, il y a quand même un arc narratif qui permet souvent de passer par différentes émotions. Il y a souvent, par exemple, un peu de la comédie, un peu de drame, un peu de suspense. Mais maintenant, on s'aperçoit que on peut, voilà, c'est surtout lié aux réseaux sociaux, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais on peut segmenter tout ça et faire des teasers plus courts qui reprennent un élément, par exemple, le côté comédie du film, et après, donc, construire ce teaser sur la comédie, par exemple, et après s'adresser, le cibler vers une tranche d'âge peut-être plus jeune ou qui est plus friand de comédie. Et en fait, sur une bande-annonce d'une minute trente, il y a... souvent on peut séparer une ou deux ou trois parties qui sont dans des styles d'émotions différents. Et souvent les teasers permettent comme ça de segmenter et après d'aller s'adresser à différentes cibles, tranches d'âge, voilà.
Et c'est vrai que cette idée de rythme, elle paraît vraiment centrale dans les bandes-annonces, hein, pour en avoir visionné plusieurs avant cet entretien. On voit vraiment que, de toute façon, il y a effectivement l'arc narratif. On a envie de reprendre une partie du synopsis, peut-être, dans la bande-annonce. Mais il y a aussi cette question de... on commence peut-être par poser la situation. Ensuite, on a un premier carton, peut-être, pour annoncer le titre. Voilà. Et puis, on a un deuxième... Enfin, finalement, en fait, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que tous les films sont différents, mais est-ce que finalement, toutes les bandes-annonces ne réagissent pas, pour des raisons de marketing, à un rythme, un tempo qui est relativement uniforme, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûr. Je suis d'accord. Alors après, c'est vrai qu'un film est souvent aussi construit de cette façon, c'est-à-dire qu'on pose un peu d'abord les enjeux. Ensuite, c'est le début, donc on commence à comprendre les personnages, etc. Et puis ensuite, il va se passer des choses, donc le drame arrive. Ensuite, il y a des petits moments de rupture avec des scènes un petit peu rigolotes. Et puis après, on monte jusqu'à un climax, jusqu'à un cliffhanger. Et puis, et en fait, finalement, on retrouve un petit peu cette construction dans les bandes annonces. Et en fait, c'est quand même une construction qui est... C'est pour ça qu'elle se ressemble, parce qu'il y a un ordre, en fait, pour raconter les choses. D'abord, il faut vraiment comprendre quelle est la situation, comprendre les personnages, et puis après, comprendre ce qui leur arrive. Et puis, c'est vrai qu'on retrouve cette narration, qui est d'ailleurs dans les bandes-annonces particulièrement, si on fait attention, elles sont ponctuées, il y a une ponctuation narrative par les sons.
Oui.
Et en fait, on passe comme ça d'étape en étape, souvent par les sons, aussi par les cartons qui apportent un peu des cautions, le casting ou des citations presse ou la caution des festivals, etc. Et en fait, ça rythme comme ça les bandes annonces. Donc, c'est d'abord les personnages souvent. D'ailleurs, c'est souvent ce que veulent mettre en avant les distributeurs, c'est-à-dire le cast. D'ailleurs, si vous regardez bien dans toutes les bandes annonces, le premier plan ou le deuxième ou le troisième, c'est le personnage du film ou les un ou deux acteurs du film. Parce que d'ailleurs aussi, quand on regarde les bandes annonces maintenant, on les regarde de plus en plus sur les réseaux sociaux, et donc la durée, je crois, de visionnage d'une bande annonce sur les réseaux sociaux, c'est en moyenne 15 secondes sur les 1 minute 30. Donc les premiers plans sont très importants, et si vous regardez bien, souvent c'est les acteurs, parce que c'est souvent ce que veulent mettre en avant
les distributeurs.
Les distributeurs, voilà.
Alors, il y a aussi des distributeurs qui font un choix complètement opposé, qui est celui de proposer des bandes-annonces quasiment exclusivement musicales. Vous parliez de sons juste avant pour faire des transitions. Ça, c'est dans le cadre, j'imagine, de bandes-annonces très découpées, avec ce rythme un petit peu prédéfini. Mais on a... je vous parlais de la bande-annonce de Titan, qui est, par le choix du distributeur, exclusivement musicale, avec aucun élément, a priori, de scénario, d'intrigue, uniquement des images et cette musique. Est-ce que vous avez déjà réalisé ce type de bande-annonce ? Est-ce que ça se fait souvent ?
Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà souvent proposé ce genre de bande-annonce en V1, en première proposition. Et souvent, petit à petit, en fait, on revient à une narration commune. Moi, j'aime particulièrement ce type de bande-annonce. La bande-annonce de Titan, je l'aime bien. Il y en a une là qui vient de sortir du film de François Ozon, que je trouve très réussi, qui est très courte, qui est simplement en musique et avec un habillage, et c'est assez joli. Et j'en ai discuté, on s'était parlé il y a quelques jours, et j'en ai discuté avec le distributeur du film, là, Samuel Colas, qui est le directeur marketing, qui a sorti, qui avait d'ailleurs travaillé, il me semble, à l'époque sur celle de Titan. Et lui me disait, pour les cinéphiles, les gens qui aiment beaucoup l'univers du réalisateur ou de la réalisatrice, ça marche bien. Mais en fait, ensuite, on reçoit beaucoup de retours en nous disant, on comprend rien, c'est pas assez explicite, on sait pas ce qu'on va voir, c'est un peu brouillon, etc. Donc, il y a quand même deux...
Il y a une certaine réticence des distributeurs à s'engager dans ce type de bande-annonce.
Moi, j'aime ça, mais je sais que les distributeurs disent que ça fonctionne mieux en disant beaucoup qu'en disant pas assez. Voilà.
D'accord. Alors justement, là, depuis le début, on comprend bien que la place centrale qu'a un distributeur et l'idée que la bande-annonce est un des éléments de la promotion d'un film aux côtés de l'affiche, d'éventuels teasers ou de campagnes sur les réseaux sociaux, de la presse, des spots radio. Alors, à quel moment est-ce que vous commencez à travailler, et puis combien de temps est-ce qu'il faut pour faire une bande-annonce ?
D'abord, je vois le film, donc je le vois souvent en amont, bien avant. Donc avant, effectivement, vous l'avez dit en introduction, on allait un petit peu en salle de projection à Paris, regarder les bandes annonces, regarder les films quand ils n'étaient pas tout à fait terminés, donc avec un son pas incroyable, les images pas tout à fait conformées, etc. Maintenant, c'est la même chose, qu'on les reçoit en fait sur des plateformes sécurisées.
Oui.
Et on les reçoit souvent, c'est encore en construction, donc en post-production. C'est pas très beau à voir, parce qu'on reçoit avec notre nom écrit en énorme dessus pour pas que ce soit diffusé,
piraté,
etc., pour savoir qui a diffusé. Voilà. Et ensuite, on en discute avec le distributeur, donc il nous fait un premier brief avec un petit peu les deux ou trois axes importants pour lui. Et puis ensuite, on se met au boulot devant son plan de montage, et on essaye de ressortir les axes importants, les enjeux du film, quoi. Et on propose, donc c'est un travail qui peut être assez long, enfin ça dépend vraiment des films, mais c'est un travail qui peut être long, je dirais, pour moi, quand je fais une annonce, c'est pour arriver à une première version, souvent, je l'envoie à 15 jours après, quoi, en ayant quand même pas mal travaillé.
Ah oui, enfin, ça paraît long et pas très long, j'ai envie de dire. Mais alors justement, ça m'intéresse. Quand vous regardez ce film, donc vous le regardez peut-être plusieurs fois, comment est-ce que vous repérez les plans qui vont vous intéresser? Parce que parfois, dans une bande-annonce, on a des plans qui peuvent paraître un peu anodins, surtout si on voit le film derrière. Comment est-ce que, en tant que monteur, vous vous dites « Ah, ce plan-là, je vais en avoir besoin ».
Alors, tous les monteurs de bande-annonce ne fonctionnent pas pareil. Moi, je fonctionne de cette manière. Je choisis d'abord, en fait, au son, ce qui va être important, c'est-à-dire les phrases clés, les phrases importantes pour arriver à raconter les enjeux du film. Donc, je fonctionne d'abord sur les sons, sur les phrases importantes que je mets plus ou moins bout à bout. Ensuite, oui. On verra qu'il y a un rythme qui doit s'installer avec des ruptures, des blancs, des musiques, etc. Surtout aussi des phrases qui doivent être dites en in, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on voit l'acteur ou l'actrice qui l'a dit à l'image, des phrases très importantes. Et puis ensuite aussi, d'un autre côté, on regarde tous les plans du film et on voit aussi ceux qui d'abord sont beaux, ceux qui sont intéressants, ceux qui représentent bien l'univers du film, et aussi ceux qui, posés sur des phrases, peuvent apporter un nouveau sens ou un sens différent. Aussi, il y a des plans emblématiques qu'il faut mettre. Il y a des plans aussi que les producteurs aiment bien qu'on mette. C'est des plans qui ont coûté cher.
D'accord. Mais ce qu'on entend quand même dans ce que vous dites et qu'on n'avait pas encore identifié jusqu'à présent, c'est que au-delà de raconter, dévoiler une partie du film, il y a aussi cette idée de transmettre un univers singulier d'un ou de deux réalisateurs. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une bande-annonce que vous avez réalisée, j'imagine, il y a quelques mois, parce que le film est sorti début avril. Ça a été c'est le nouveau et dernier film, pour l'instant, du duo Kervern et Delépine. Et justement, peut-être qu'ensuite, vous pourrez nous revenir un peu sur comment vous avez travaillé, parce qu'ils ont un univers très particulier, et comment vous avez réussi à le faire transparaître dans la bande-annonce.
En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut.
Bonjour, cher ami.
Bonjour, connard.
Hein ?
T'en as pas marre d'emmerder les Français ?
Alors, cher collègue ?
C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way.
On s'amusait plus avec l'ancien maire.
Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Non.
Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ?
Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape.
Allez, top. Hop ! Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres.
Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là.
Girl power ! Pas de sexe fort ! Pas de patriarcat !
Je les ai collés tous les deux, ensemble, quoi, l'un derrière l'autre.
Vous m'avez violé !
Non, elle nous a collés !
Gauche, droite, gauche, droite.
Oh, bouge pas !
La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi ?
Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby.
On a un bel exemple.
Excusez-moi, est-ce qu'on a vidéo surveiller les vaches ensemble ?
Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viandes.
C'est vraiment devenu intenable ! Intenable !
En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait.
Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries.
Crois-moi, je vais changer.
Tu commences à me plaire de plus en plus, toi.
Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et...
Alors, c'était la bande-annonce du film En même temps de Kervern et Delépine. Et justement, je trouve que rien qu'à l'écoute de cette bande-annonce, on comprend l'idée de rythme par le son et aussi d'univers.
Kervern et Delépine, leur univers est très quand même marqué. Et d'ailleurs, si on regarde les bandes-annonces, d'ailleurs, on s'en inspire un petit peu quand on fait la bande-annonce de Kervern et Delépine parce que ça ressemble à leur film. Et puis, c'est... C'est un univers qui est comme ça, un peu bordélique, un peu coloré, assez drôle, etc. Parfois un petit peu qui a des idées sur la politique voilà, très marquées. Et donc voilà, il y a un rythme quand même, mais c'est aussi le rythme de la comédie. Là, vraiment, ce que voulait le distributeur, c'était vraiment axé sur la comédie. Comédie politique, donc parce que le film sortait pendant la campagne des présidentielles. Mais voilà, Simon, tout à l'heure, on parlait de code. oui. pour les afficher, pour les bandes-annonces. Voilà, le code de la comédie, c'est aussi d'envoyer, d'y aller, de faire des évidemment d'avoir des blagues du film importantes. Certains disaient que maintenant on ne voyait plus comme ça un enchaînement de blagues tout le temps, parce que ça, c'était ça, soit ça déflore trop le film, soit les gens sont lassés de ça, d'avoir une suite de blagues. Donc si on regarde les bandes-annonces de comédie aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est plus maintenant des scènes qui durent un petit peu plus avec des ruptures et puis des césures qui font rire. Donc ça, c'était l'enjeu pour le distributeur. Donc que ce soit drôle, que ça aille vite et que ce soit dans leur univers. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait avec les cartons, avec les musiques comme ça. Souvent dans les films de Cavalier des Lépines, il y a des musiques comme ça qui envoie un petit peu saturé, un peu comme dans les films de Dupontel, par exemple. Oui. Et souvent, quand on commence une bande-annonce, le distributeur nous donne quand même deux ou trois références de bande-annonce ou de film pour un petit peu donner le ton, quoi.
Et là, du coup, est-ce que, par ailleurs, vous étiez en communication avec les réalisateurs ou c'est uniquement avec le distributeur ?
Alors là, c'était uniquement avec le distributeur et c'est souvent le cas, ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Quand tout d'un coup se mêle un petit peu à tout ça, aussi les producteurs ou les acteurs parfois, j'ai eu, oui. ou le réalisateur, ça crée quand même une sorte de cacophonie. Et en fait, je crois que le métier du producteur, c'est ce que je disais un peu au début, c'est pas le même... le métier du distributeur, et que le distributeur, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on prend le film. Lui, après, bien sûr, de son côté, va voir tous les intervenants dans la construction du film et essaye aussi de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Mais moi, je suis vraiment mon seul partenaire, c'est le distributeur. D'accord. Après, moi, ce que j'aime, c'est plus tard, donc en post-production, quand on fait le mixage du film, là le réalisateur vient, parce que c'est le son d'une bande-annonce, c'est important. J'aime bien discuter avec eux de ce qu'on a fait, le travail que j'ai fait, de leur film, etc. Ça, je trouve que c'est des moments sympathiques et intéressants.
Et alors, du coup, pour revenir un petit peu sur votre travail sur cette bande-annonce, vous parliez tout à l'heure de l'idée de V1, donc ça veut dire première version. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs pour arriver à ce résultat final extrêmement... Alors, on s'en rend très bien compte au son, et encore plus quand on a l'image, mais on voit bien à quel point c'est un montage extrêmement précis de séquences du film. Comment est-ce qu'on travaille l'écriture, en fait ? Comment est-ce que vous avez travaillé l'écriture de cette bande-annonce ? Donc, il y avait peut-être quelques scènes qui vous étaient demandées, soit par la production, soit par la distribution, mais après, comment vous avez fonctionné, très concrètement ?
Concrètement, effectivement, donc moi je construis ma bande-annonce, donc je l'écris. Elle a assez peu évolué, celle-ci, même s'il y a beaucoup de versions après pour des détails, etc. Donc on monte à souvent 17 versions, mais c'est souvent. Il n'y a pas eu sur cette bande-annonce un changement énorme. Ce que je peux dire simplement, c'est que donc, ce qui est important par exemple pour eux, c'est qu'il y ait un petit peu quelque chose de l'ordre du clip de campagne, parce que ils voulaient un petit peu, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu pour l'affiche, ils voulaient un petit peu être dans cette campagne électorale et puis faire un petit peu, donner un peu l'impression qu'ils sont candidats, etc. Et donc la deuxième partie, par exemple, c'est ce qui leur a plu quand j'ai proposé ça, c'était de faire avec, on le voit pas en radio, mais c'était de faire ce clip avec ces grands thèmes, économie, sanitaire, sécurité, etc. Et ça, je l'ai proposé au départ et on savait qu'on allait le mettre, donc sur la musique de l'Europe, l'hymne à la oui. voix. Ça, on savait qu'on allait le mettre. Ensuite, évidemment, il faut présenter les personnages, celui de gauche, celui de droite, donc ça, c'est le début. Après, c'est vrai que ça se fait un petit peu naturellement. Il faut une blague pour les rassembler. Et puis ensuite, l'enjeu, la difficulté de ce film. C'était raconter quelque chose qui, comme ça, peut paraître un peu vulgaire, qui ne l'est pas vraiment dans le film et qui ne devait pas l'être dans la bande-annonce, même si c'était un peu difficile parce qu'en 1 minute 30, c'est difficile de raconter l'idée du film, qui est quand même l'idée d'un mec de gauche qui passe une nuit avec un mec de droite et qui sont un peu emboîtés l'un dans l'autre. Donc ça, c'est une idée qui, dans le film, n'est pas vulgaire, mais comme quand on la raconte, elle peut paraître vulgaire. Et donc ça, c'était délicat, en fait, de faire ce point de bascule au milieu pour raconter quand même la situation des personnages.
C'est vrai que ça fonctionne très bien dans la bande-annonce. Et effectivement, c'est pas du tout trivial quand on le voit. Au contraire, tout de suite, ça apparaît comme un élément de la comédie. Voilà. Alors, vous disiez... Oui, mais c'est très réussi. Alors, vous disiez pour terminer cet entretien que donc vous aviez rencontré les réalisateurs lors du mixage de la bande-annonce. Ma dernière question, c'était, on sait qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Je ne sais pas déjà s'il y a beaucoup de monteurs de bande-annonce et surtout, est-ce qu'il y a une certaine fidélisation, c'est-à-dire c'est tel monteur qui va de bande-annonce qui va travailler sur tel type de film ou avec tel type de réalisateur ou pas du tout en fait?
Alors si il y a 10 agences de bande-annonce. Donc, oui. Il n'y en a pas énormément, finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent. Après, il y en a 5 très grosses, voilà, qui font appel à des monteurs. Et en fait, c'est vrai que souvent, déjà, des réalisateurs ou des réalisatrices travaillent finalement souvent avec les mêmes distributeurs, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils savent comment eux vendent le film, etc. Et donc, souvent, il arrive que des réalisateurs ou des réalisatrices demandent à ce que le monteur de bande-annonce continue. Moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place, mais c'est un petit peu l'enjeu des monteurs de bande-annonce, c'est-à-dire de travailler avec les réalisateurs et réalisatrices qu'on apprécie et les films avec lesquels on s'est bien entendu. Moi, par exemple, pour Caravane des Lépines, j'avais travaillé avant avec eux, mais sur des teasers. Donc, j'avais pris les bandes-annonces et j'en avais fait des teasers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, j'aimerais bien, c'est vrai que la prochaine fois, le prochain film, je sais qu'ils écrivent un nouveau film, là, j'aimerais bien continuer un peu l'aventure avec eux et
En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite, Renaud Lefebvre. Un grand merci en tout cas pour cet échange. Et puis, pour les amateurs de bande-annonce, n'hésitez pas à consulter le site de la Cinéphile pour découvrir celles qui ont été réalisées par notre invité. Donc, vous trouverez le lien sur la page de l'émission, mais c'est www.lacinéphile.com. Et puis, la Cinéphile, c'est aussi une page Facebook sur laquelle Renaud Lefebvre partage ses coups de cœur cinématographiques. Alors, n'hésitez pas non plus à aller y faire un tour et pourquoi pas à vous abonner.
Super, merci beaucoup.
Au revoir, Renaud.
Au revoir à tous. Merci beaucoup. We'll be right back.
c'était Small Dawn, un remix par Arnaud Rebottini. Un titre tiré de la bande originale de 120 battements par minute réalisée par Robin Campillo. Vous écoutez Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. Et maintenant, on retrouve un court agenda cinéma proposé par Anne-Li.
Alors pour commencer, vous pouvez noter à la page de ce dimanche 26 juin 11h15 au 400 coups la projection des Mignons 2, Il était une fois Gru. Vous y retrouverez les aventures de ces créatures complètement en crétine, les Mignons, mais qui vous feront forcément rigoler à un moment donné. Alors dans cet opus, on découvre Gru avant qu'il ne soit le terrible maître du mal de moi moche et méchant. Ici, ce n'est qu'un banlieusard de 12 ans qui grandit dans les années 70, mais Gru commence déjà à imaginer des plans sombres et bien sûr très très méchants. Tout le monde connaît l'univers de ce film, sachez que c'est à voir si vous aimez entendre des créatures absurdes crier, si vous n'avez pas peur de beaucoup, beaucoup de cris. Ce qui est à noter surtout, c'est que c'est une séance ciné-ma-différence, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, mais adaptée pour les enfants et adultes handicapés. Une bonne occasion de voir un film ensemble, sans se poser de questions. Et en plus, c'est une avant-première. Les infos sont à retrouver sur le site des 400 coups, et je vous rappelle que c'est ce dimanche matin. Alors un autre film qui a retenu mon agenda pour mon attention pour cet agenda est une sortie de ce jour, c'est I'm Your Man de Maria Schrader, une réalisatrice allemande. On y suit Alma, scientifique brillante, qui accepte de participer à une expérience surprenante. Pendant 3 semaines, elle va vivre avec Tom, qui est absolument charmant, mais qui est un robot à l'apparence humanoïde parfaite. Tom est spécialement programmé pour correspondre à la vision du partenaire idéal d'Alma et sa mission, la rendre heureuse. Alma, elle prend la situation avec recul et elle ne semble pas s'emballer pour cette humanoïde aux actes calculés grâce à une infinité de statistiques, de questionnaires, de probabilités. C'est un film qui pose de nombreuses questions sur l'amour, mais pas seulement. La bande-annonce encore m'a donné envie de le découvrir en salle, mais c'est à vous de voir si les algorithmes peuvent faire germer l'amour. Et enfin, mercredi prochain, le 29 juin, vous pourrez découvrir une autre avant-première, toujours aux 400 coups, avec La Petite Bande de Pierre Salvadori. Ce sera à 20h et le réalisateur sera présent. Alors on lui doit à Pierre Salvadori En Liberté, que vous avez peut-être vu en 2018. L'histoire de La Petite Bande, ce sont 4 enfants, Fouad, Kat, Antoine et Samy, 4 collégiens qui ont pour projet de mettre le feu à l'usine qui pollue leur rivière. Mais dans un collectif, ce sont souvent les prises de décision et les débats qui freinent l'action. Alors ils font face à cette galère, comment on vote, comment on s'associe, les conflits d'influence, et l'équipe décide d'inviter un 5e membre. Pour ça, il faut que ce soit un enfant qui n'ait aucun ami. Ce sera donc Aimé, le gamin complètement rejeté du collège. On devine une comédie de bonne ambiance, avec un vernis évidemment écologique. On peut y emmener ses enfants pour cultiver leur fibre du sabotage, ou aller le voir pour débuter l'été tranquillement. Franchement, pourquoi pas. Voici donc pour l'agenda avec une sélection qui a été faite à l'aide de bandes-annonces. Et je crois que tout est dit dans celle de La Petite Bande, alors on l'écoute.
La petite bande.
Ouais. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande.
Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui ait pas de copain du tout.
Que personne n'aime.
Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer.
Au secours.
Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait?
L'écologie. T'en penses quoi?
Hein? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes?
Si j'aime les poissons?
Ouais, les truites.
Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la bande.
Wow!
Une bande qui a dû faire un truc de dingue. Il y a quelqu'un.
On va pas le laisser ici, attaché comme ça.
Mais il lui faut un pyjama ou je sais pas moi.
50 euros chacun pour ma libération.
Je suis tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés.
Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire?
Oh. Désolée.
Regarde-moi ces petits anges.
Wow. Oh merde.
Il faut arrêter tout ça, on peut pas le garder.
Et les brebis, tu les aimes les brebis?
Les brebis.
Tu battrais pour une brebis?
Ouais, une chèvre même.
C'était la bande-annonce donc de La Petite Bande de Pierre Salvadori. Merci Anne-Lie pour cet agenda thématique. Et maintenant, eh ben moi je me sens dans la position d'un spectateur qui découvre un film en salle sans en avoir vu la bande-annonce, puisque je lance la chronique de Véronique sans rien en connaître à part son titre. Où s'assoit-on dans les salles de cinéma, Véronique ?
Eh bien, nous allons bientôt lever le mystère ensemble. Mais tout d'abord, je voulais dédier cette chronique à Régis, mon cher et tendre, mon amoureux, grâce à qui je vous propose cette chronique. Nous allons donc répondre à une question a priori bien curieuse. Où s'assoit-on dans une salle de cinéma ? Et vous, à quel endroit de la salle vous installez-vous ? Cette question vous paraît futile ? Pourtant, il s'agit d'une étude on ne peut plus sérieuse réalisée en 2012 par Claude Forest, un chercheur en économie du cinéma à l'université Sorbonne Nouvelle. Et comme j'avais trouvé que cette étude était à la fois cocasse et audacieuse, avec Régis, nous avons décidé de vous la raconter pour notre dernière émission de l'année. Au cinéma, quels sont les sièges les plus fréquemment occupés ? Certains sont-ils désertés ? Quels sont les facteurs influençant le choix d'un spectateur pour se placer ? Comment s'organise la répartition spatiale d'occupation des sièges dans une salle ? S'observe-t-il des variations selon l'âge, le sexe, ou si le spectateur vient seul ou accompagné ? Est-elle la même selon les établissements, les salles, les films, le public, etc. ? De la même manière, comment les spectateurs quittent-ils leur siège ? Dans quel ordre s'effectue la sortie d'un lieu occupé après un temps commun ? Que de questions ! Voici maintenant quelques éléments de réponse. Dans une salle aux normes, les places qui offrent la meilleure qualité visuelle et sonore se situent au centre de la salle en largeur et entre le tiers et les deux tiers en longueur, tout cela variant selon la taille et la configuration géométrique du lieu. Le bon sens voudrait que bien voir et bien entendre constitue le premier critère de choix de sa place dans une salle. Mais la réalité n'est pas si simple, car se retrouver collectivement dans un même lieu induit des choix qui font appel à nos instincts primaires. L'étude de Claude Forest a défini nos comportements de spectateurs selon trois vagues d'arrivée en salle, les primo-arrivants, la foule tranquille et les retardataires. Pour les primo-arrivants, les meilleures places d'un point de vue technique ne sont pas celles qui sont les plus choisies, ce sont plutôt celles situées en haut de la salle. La raison avancée, consciente ou non, serait un besoin de domination de l'espace et des autres, de contrôle du territoire et donc d'assurer sa propre sécurité. Qui plus est, la partie la plus remplie par les primo-arrivants est celle par laquelle les spectateurs entrent et les sièges qu'ils évitent sont ceux qui se trouvent près de la sortie. Les personnes composant la foule tranquille, ce sont donc les spectateurs qui arrivent après les primo-arrivants, vont éviter de se placer juste à côté ou derrière quelqu'un et très rarement juste devant, créant ainsi une zone d'évitement et donc un respect implicite du territoire et des autres. Ainsi, jusqu'à un remplissage d'environ un quart de la salle, jamais une personne seule n'ira s'asseoir à côté d'un autre spectateur. Entre le quart et la moitié du remplissage, on ne le fera pas non plus si elle est isolée et du sexe opposé, mais pourra le faire si elle est du même sexe, en couple ou en groupe. Puis arrivent les retardataires. Chez eux, trois types d'attitudes ont été observées. Les timides. Par gêne ou respect des autres spectateurs, ils se placent là où ils peuvent pour ne pas déranger. En fonction du moment où ils arrivent, pendant le film ou la publicité, la majorité des spectateurs retardataires respectent ainsi le plus possible les personnes déjà installées et tentent à occuper les places vacantes accessibles, comme par exemple le premier rang. Les places centrales, même libres, peuvent ainsi rester inoccupées. On en vient aux méticuleux. Ils trouvent une place intéressante et s'y rendent après avoir pris le temps d'observer la salle pour se diriger vers une place mûrement choisie. Ils stationnent donc d'abord dans l'entrée ou l'allée, balayent plusieurs fois la salle du regard, opèrent leur sélection et s'y rendent, même si cela implique qu'ils doivent passer devant l'écran. Il y a enfin les dominants qui, malgré leur retard, n'hésitent pas à s'installer à la place de leur choix. Que le film ait commencé ou non, que d'autres places soient libres ailleurs ou pas, ils y vont, quitte à déranger une partie de la rangée, à demander aux gens de se lever ou à pousser des affaires pour pouvoir s'installer sur la place choisie. Il a également été remarqué que lorsque les spectateurs arrivent à deux, en couple ou entre amis, ils vont avoir tendance à s'asseoir dans la moitié la plus éloignée de l'écran, voire au fond, lorsque les salles sont peu profondes. Et puis, autre observation, Il n'y a pas de goût masculin ou féminin pour se placer d'un côté ou de l'autre de son partenaire. Cependant, dans plus de 3 cas sur 4, l'homme sera plutôt du côté du bout du rang et la femme plutôt du côté du centre de la rangée. Alors, vous reconnaissez-vous dans ces comportements ? Attendez, nous allons voir maintenant comment se passe la fin de la séance, quand le film s'achève. Il faut d'abord noter qu'un même spectateur pourra quitter la salle à des moments distincts selon le film vu, son genre, l'émotion qu'il a ressentie, mais aussi son emplacement dans la salle, s'il est seul ou en groupe, etc. Mais en moyenne, l'étude montre que les sorties des spectateurs sont effectuées ainsi. 35% d'entre eux sortent dès la fin du film, avant le rallumage de la salle. 40% une fois la salle éclairée durant le défilement du générique. Et 25% à la fin du générique. L'âge peut aussi être une clé de lecture du moment où l'on sort. Les jeunes, qui ont moins de 25 ans, vont proportionnellement être les plus nombreux, soit à partir vite, selon les films, soit à rester jusqu'à la fin, 30 à 40% d'entre eux. Les personnes plus âgées, les plus de 60 ans, vont aux 2/3 se lever une fois les lumières allumées, très peu demeurant jusqu'à la fin. Quant aux personnes entre ces deux âges, elles vont se répartir assez uniformément dans ces comportements. Et voilà ce que Claude Forest a mis en évidence dans son étude. J'espère que cela vous aura intéressé et que vous vous serez reconnus, car cela voudrait dire que vous aimez toujours aller au cinéma et partager collectivement vos émotions devant les films. Pour ceux qui veulent lire l'étude en entier, vous la retrouverez sur la page de l'émission.
Merci Véronique. Ça donne envie d'aller observer ses collègues de salle.
Peut-être que du coup, on va aller au cinéma, mais ne plus voir les films.
Faire des sciences sociales. C'est déjà la fin de cette dernière édition de Caméra Subjective pour la saison. C'était la 19e émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter l'émission en intégralité sur le site de Radio G. Et on y met bien sûr les références de tous les sujets abordés ce soir, comme on vous l'a déjà dit. À cette même page, vous pourrez aussi retrouver l'ensemble de nos émissions et redécouvrir tous les entretiens, par exemple. Cette année, on a parlé de diffusion, production, audio description, post-production, création, réalisation, transmission, des sujets qui nous ont tous passionnés et qu'on ne peut que vous inviter à réécouter cet été. Alors, une saison radiophonique, 19 émissions, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup Margot et Véronique, l'équipe de Choc.
Merci Anne-Lé.
On vous souhaite une très belle saison estivale. Peut-être qu'on se retrouve à la rentrée à l'antenne, ou alors on se croise dans les salles de cinéma. Bonne soirée.
Bel été à tous.
Et bel été, oui.